On se paye un petit cours privé ce matin.
Oui.
Parce que le président américain Donald Trump s'est prévalu pour la première fois de son mandat du droit de veto présidentiel. Alors, petit cours privé d'actualité internationale avec le prof Éric Arsenault du cégep de Jonquière. Bonjour, prof Arsenault.
Salut, Paul Raphaël. Bonjour, Pascal.
Alors, prof Arsenault, donc, ce droit de veto-là, le veto présidentiel du président américain, si en début de mandat, on nous avait dit. Vous avez un vieux deux piastres à mettre sur la cause qu'il va tenter de défendre avec son droit de veto. Pas mal sûr qu'on l'aurait tout mis sur le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis.
Voilà, exactement. Tu as parfaitement raison, parce que c'est la promesse phare de Donald Trump. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il se batte bec et ongles pour réussir à faire passer son projet. Et on sait très bien que le Congrès lui refuse justement l'argent dont il a besoin pour construire son mur. En fait, c'est pas tellement vrai, parce que le shutdown dont on s'est déjà parlé, la paralysie budgétaire, a oui. finalement été réglée parce que les démocrates ont accepté qu'il y ait un petit peu plus $1 milliard qui soit consacré à la construction. On ne dit pas d'un mur, on dit bien d'une clôture ou encore d'une barrière de sécurité, sauf que pour Donald Trump, ce 1,4 milliards, c'est largement insuffisant par rapport à ce qu'il réclamait, c'est-à-dire autour de $6 milliards. Et on s'en est déjà parlé, la façon pour lui de contourner l'opposition du Congrès à financer son mur, c'est d'aller piger dans les fonds réservés pour les catastrophes, les situations d'urgence. Alors, Donald Trump, il y a de cela un mois et demi, deux mois, a invoqué donc cet état d'urgence nationale. Il y a urgence, selon lui, à la frontière, avec l'arrivée massive de migrants, puis des violeurs, puis des criminels, puis des drogués, puis des terroristes, etc. Et c'est une façon pour lui, justement, d'aller piger dans cette enveloppe-là, qui lui est réservée, et qui est réservée d'ordinaire pour les catastrophes, mais piger dans cette enveloppe, justement, pour construire son mur. Et ce projet de loi visant à décréter l'urgence nationale, que le Congrès a décidé de bloquer par un vote cette semaine, pour lequel d'ailleurs Donald Trump vient d'utiliser son veto dans l'espoir de renverser la situation.
J'ai quand même été surpris, prof Arsenault, parce que depuis le début du mandat, souvent on répète que le président Trump gouverne par décret. Le décret présidentiel, c'est comme une espèce de façon de contourner un peu là, le Congrès puis le Sénat. Mais c'est quoi exactement la différence entre ça et le fameux veto présidentiel?
Mais le veto présidentiel a ceci de particulier, c'est qu'il permet de bloquer une décision du Congrès qui n'émane pas du président. Parce que le décret, c'est le président qui le signe. Le Congrès va avoir à se prononcer à peu près là-dessus. Sauf que dans le cas qui nous intéresse, c'est une décision du Congrès que le président se trouve à bloquer. Alors, c'est comme si, dans le fond, on prenait le problème par les deux bouts. Le décret, ça origine de la Maison-Blanche du président, alors que, dans un certain sens, les projets de loi originent du Congrès et le président se trouve à débloquer de cette
okay.
façon-là.
OK. Est-ce que ce veto présidentiel-là, donc sur la mesure du Congrès qui visait à bloquer le projet de Donald Trump, est-ce que ça signifie que la construction du mur commence lundi matin, première heure?
Non, il va probablement se passer encore un petit bout de temps parce que, rappelons-nous d'une chose, il y a également des recours devant les tribunaux actuellement parce que les démocrates ont juré que cette décision-là, l'utilisation de l'état d'urgence par Donald Trump pour financer son mur, c'est une décision à laquelle ils allaient s'opposer de toutes les façons possibles. Alors, politiquement, au Congrès, on l'a vu cette semaine avec la résolution qui a été adoptée et pour laquelle Donald Trump vient d'apposer son droit de veto, mais il y a également toute une bataille qui se déroule devant les tribunaux parce que ceux et celles qui s'opposent à cette décision de Trump prétendent que c'est un abus de pouvoir, que constitutionnellement, Donald Trump ne peut pas invoquer l'état d'urgence pour financer la construction de son mur, même si dans la Constitution, on définit pas, et dans la loi, on définit pas de façon très précise ce qu'est une urgence, sauf que dans le passé, on s'est toujours entendu qu'une urgence, c'était soit une menace à la sécurité de l'État, c'était soit une catastrophe naturelle, une menace à la santé publique, mais là, construire le mur, d'autant plus qu'il y a des gens qui disent que cette menace, elle est inexistante. C'est une menace qui a été fabriquée de toutes pièces par Donald Trump, qu'on exagère largement la situation à la frontière. Alors, actuellement, les tribunaux vont devoir se pencher là-dessus, et ultimement, ça va se retrouver probablement en Cour suprême, et c'est là qu'on va avoir à déterminer si oui ou non, effectivement, ce fameux mur pourrait être construit en utilisant les fonds des urgences nationales.
C'est pas, j'ai une petite fierté, parce que je suis en partie une personne exceptionnelle et de qualité, parce que j'ai eu Éric Arsenault comme enseignant.
Ah, c'est vrai!
Et là, il y a une chose qui est arrivée, qui n'est jamais arrivée depuis que je le connais. Éric, je t'ai proposé un article qui m'a vraiment fait halluciner hier. Tu n'étais pas au courant, mais là, tu t'es mis au courant. L'Express publiait que l'Espagne, la droite en Espagne, un parti politique, pourrait offrir de ne pas expulser les migrantes si elles font adopter leur bébé. C'est quoi ça?
Exact. J'avoue que ça m'a pris un peu par surprise, ta question, mais en m'oufiant un peu, C'est pas une fake news, là, c'est vraiment vrai. Mais il faut mettre les choses dans le contexte. Il y a actuellement en Espagne une campagne électorale, il y a des élections qui auront lieu le 28 avril prochain, et effectivement, le Parti populaire, qui est un parti conservateur, un parti de droite, qui est pas, soit dit en passant, un parti marginal. Des fois, on entend des propositions comme ça, mais ça vient de partis marginaux, un peu illuminés sur les bords. Là, le Parti populaire, c'est le parti qui a été au pouvoir au cours des 30 dernières années. Et ce parti-là, effectivement, dans le cadre de la campagne électorale, propose effectivement que l'expulsion d'une femme migrante soit retardée si elle confie son enfant à l'adoption. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être expulsée pendant sa grossesse, ce qui laisse supposer par contre qu'après, oui, elle va pouvoir être expulsée parce que son enfant aura été donné en adoption. C'est assez particulier comme situation et ça fait énormément jaser. J'ai été fouillé un petit peu hier, notamment dans la presse espagnole, ce qui se dit à ce sujet-là. Ça suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques parce qu'on y voit pour certains un bel exemple de racisme, de sexisme, puis même à la limite de fascisme aussi. Mais comprenons-nous bien, c'est que le Parti populaire qui était au pouvoir au cours des 30 dernières années a été renversé il y a de cela quelques mois à peine, et son chef a été chassé du pouvoir, et c'est un nouveau chef qui a été élu, et ce nouveau chef-là essaie dans une certaine mesure d'imprimer un virage à droite à son parti. Et il y a actuellement en Espagne une formation d'extrême droite qui s'appelle Vox, c'est des ultras. C'était des gens qui étaient plutôt insignifiants puis sans trop d'importance, mais les derniers sondages nous montrent que ce parti d'extrême droite Vox est de plus en plus important. Dans les sondages, on lui donne même jusqu'à 15% des voix. Et moi, j'interprète ça, Pascal, cette position sur les femmes immigrantes et l'adoption, je vois ça comme une tentative du Parti populaire d'essayer justement d'aller chasser sur les terres du parti d'extrême droite qui, là, est en train de monter en puissance. Au bout du compte, ça va se réaliser. Est-ce que même arrivé au pouvoir, on va exécuter ou mettre en œuvre cette décision-là? Ça reste surprenant, d'autant plus que le nouveau chef du parti a tempéré un petit peu en disant non, c'est pas exactement ça qu'on veut dire. C'est pour donner aux femmes migrantes les mêmes droits qu'une femme espagnole. Puis bon, enfin bref, on tente d'arrondir un peu les coins ronds compte tenu de la panique et de la controverse, là. Mais carrément, il faut mettre ça dans l'enjeu électoral qui est en cours actuellement en Espagne.
Mais Éric, deux choses là-dedans. Premièrement, ça peut pas être jugé inhumain, mettons, les Nations Unies décident d'embarquer là-dedans. Puis la deuxième, c'est quoi leur avantage pour faire une loi comme ça, de vouloir adopter ces enfants-là? Il y a sûrement un plus un pour eux, au bout du compte. C'est quoi ce plus un-là?
Ben en fait, c'est que en Espagne, comme d'ailleurs dans bien des pays, on fait face actuellement à une chute de la natalité. Alors, il y en a peut-être qui ont vu une façon peut-être de contrer ce phénomène-là. Il y a tout l'enjeu également des migrations qui sont très importantes. Parce qu'on en parle en Europe depuis des années et des années, ces vagues de migrants qui arrivent d'Afrique, qui arrivent du Proche, qui arrivent du Moyen-Orient. Et il faut savoir que si pendant plusieurs années, on a beaucoup parlé de la Grèce et de l'Italie comme étant les principaux pays où ces migrants-là arrivaient, c'est maintenant l'Espagne. Et c'est devenu un thème et un enjeu majeur. En Espagne, il y a 57 000 immigrés clandestins qui sont arrivés l'an dernier. C'est devenu la principale porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe. Et ça devient un enjeu extrêmement polarisant. Est-ce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a cherché à vouloir marquer des points ou à capitaliser sur cet enjeu-là? Je sais pas. Mais c'est une stratégie, tu le disais tout à l'heure, qui risque de se retourner contre eux parce que, constitutionnellement parlant, je suis pas sûr qu'en Espagne, non, on aurait le droit de faire un truc comme ça parce que ça signifierait, dans un certain sens, donner à des gens ou enlever à des gens des droits que d'autres n'ont pas. Et ça rappelle, et ça c'est un sujet qui est très sensible en Espagne, ça rappelle également les années sombres de la dictature de Franco. Dans les années 30, 40 et 50, il y a eu, et ça a été documenté, ça a été un véritable scandale, il y a eu une véritable politique où, par exemple, dans les orphelinats, on kidnappait littéralement des enfants de leur mère pour les donner en adoption à des familles favorables à la dictature de Franco. Pendant des années et des années, il y a eu tout un silence autour de cette question-là, mais le voile a été levé. On connaît maintenant l'ampleur du scandale. Alors que de ramener une proposition-là sur la table, pour certains, ça ramène aux pires souvenirs et à cette époque des kidnappings d'enfants puis des adoptions forcées de l'époque Franco. Je suis pas sûr que ce soit une excellente stratégie pour le Parti populaire.
Merci, Prof. Arsenault, pour le psycho privé ce matin.
Ça me fait plaisir. Okay, bonne fin de semaine.
Éric Arsenault, professeur d'actualité internationale au cégep de Jonquière. Je résume, là. Ce que le Parti populaire espagnol dit, c'est aux femmes sans papier, enceintes, donnez-nous votre bébé quand vous allez accoucher et peut-être qu'on va daigner ne pas vous expulser. Incroyable.